stop, c'est parti.
Regardez-moi la télé.
Nous allons parler de l'information.
MTV. Les journalistes.
You are fake news.
Hello. Bonjour à tous et à toutes. C'est l'instant M jusqu'à 10h.
C'est bon, coupé ?
Non, je vous
vois. Vous êtes en direct, allez-y.
À quoi sert la fiction ? Voilà une question qu'on n'a pas fini de se poser. La fiction peut-elle renouveler notre regard sur l'actualité ? Prenez cette image tragiquement banale. Une trentaine d'hommes et de femmes sur une frêle embarcation qui viennent de traverser la Méditerranée pour venir en Europe. Cette image peut-elle prendre une autre ampleur, un autre relief, si elle est le point de départ d'une série télé ? C'est le pari que fait Arte. Eden est une série en 6 épisodes avec des comédiens de tous les pays, de toutes les langues et la française Sylvie Testu dans le rôle de la directrice d'un camp de migrants. Eden est un récit choral. On fait la connaissance de plusieurs personnages entre la Grèce, la France, l'Allemagne, sans oublier Bruxelles, car c'est bien de l'Europe qu'il est question, de la façon dont l'Union européenne fait face à la crise migratoire, tout cela à échelle humaine, avec des personnages auxquels on s'attache très vite. Oui, la fiction n'a pas fini de prouver qu'elle est indispensable.
L'instant M, Dorothée Barba, sur France Inter.
Voilà pour le générique de cette série dont je reçois ce matin le réalisateur. Bonjour Dominique Moll.
Bonjour Dorothée Barba.
Bienvenue. Votre nom pour beaucoup de monde est associé à celui de Harry, un ami qui vous veut du bien. Alors je viens de réaliser que ce film marquant avait presque déjà 20 ans.
Eh oui.
On vous doit aussi, entre autres, Lemming avec Charlotte Gainsbourg. Et vous êtes le réalisateur donc de cette série franco-allemande à voir demain soir sur Arte. Les 3 prochains épisodes la semaine prochaine. Eden. J'ai envie de commencer en disant que c'est une série sur la crise des migrants, mais c'est une très bonne série. Est-ce qu'il vous choque ce mais ou est-ce que vous le comprenez ?
Je le comprends. Je dirais pas que c'est une série sur la crise des migrants. Je dirais que c'est une série qui a comme cadre la crise des migrants. Mmh. Après, j'ai un peu toujours du mal avec ce terme crise des migrants ou crise des réfugiés, parce que ça donne l'impression que c'était la faute aux migrants ou aux réfugiés, la crise, alors que c'est pas vraiment le cas.
C'est une situation qu'affronte l'Union européenne, en tout cas, et qui la secoue.
Oui, oui, absolument, et qui essaye de la gérer tant bien que mal, souvent plutôt mal.
D'ailleurs. En tout cas, sur le papier, ça peut faire un peu peur, hein, comme trame narrative.
Tout sujet d'actualité traité par la fiction fait un peu peur, et c'est vrai que quand on m'a proposé de travailler sur cette série, j'avais aussi mes inquiétudes, je me disais comment faire pour être à la hauteur d'un tel sujet, par quel bout l'attraper, et que donc il fallait se concentrer sur quelques destins individuels et essayer de donner des visages justement à cette masse, enfin, qui est souvent présentée comme ça à la télé, les réfugiés, les migrants, où on imagine une horde qui vient nous envahir, et du coup ça fait un peu peur, et l'idée c'était justement de dédramatiser aussi et d'enlever cette peur et de montrer que voilà, ces personnes qui fuient leur pays sont des individus avec leurs peurs, leurs espoirs, leurs défauts, leurs qualités, comme tout le monde.
Et fallait-il trouver un équilibre subtil entre le réalisme et le romanesque ? Parce qu'il y a du romanesque dans cette série.
Oui, bien sûr. Bah, c'est de la fiction, donc il faut travailler avec les ressorts de la fiction, rendre les histoires intéressantes. Ce qui était important néanmoins dans un premier temps, c'était de faire des recherches pour savoir de quoi on parlait déjà, et à partir de là, de construire la fiction.
Alors tout repose sur la scène d'ouverture, les premières images du premier épisode, vous nous les décrivez, Dominique Moll ?
Oui, ça se passe sur une plage d'une île en Grèce, l'île de Chios, qui est au large des côtes turques, et donc il y a des vacanciers, dont une famille allemande qui passe leurs vacances sur la plage, et tout d'un coup, débarque un Zodiac avec à bord une trentaine de réfugiés qui sautent de ce Zodiac, qui courent, qui traversent la plage en courant au milieu des vacanciers ébahis et qui disparaissent dans la forêt derrière la plage. C'est une scène en fait que j'avais, en faisant les recherches justement, j'étais tombé sur une vidéo amateur tournée à Cadiz en Espagne, qui représentait exactement cette scène-là et qui m'avait marqué parce que pour moi, voilà, ça résumait vraiment cette rencontre entre deux mondes qui n'étaient pas censés se rencontrer et il s'agit pas du tout de les juger et dire les méchants vacanciers, ils comprennent rien. C'est pas ça. C'est qu'ils sont dépassés comme beaucoup d'entre nous et les gouvernements d'Europe sont dépassés par ce qui arrive.
Alors, de cette scène vont découler 5 histoires dans différents pays. Et il y a notamment le personnage d'Hélène, qui est incarné par Sylvie Testu. Il est fascinant. C'est une chef d'entreprise qui est très pragmatique. Et elle est convaincue qu'il faut confier à des entreprises privées la gestion des camps de migrants en Europe. Son entreprise, en l'occurrence. Elle dirige un camp donc en Grèce qui expérimente cette gestion privée.
Dès qu'on a le feu vert de Bruxelles, on pourra ouvrir 3 nouveaux camps en Grèce d'ici à la fin de l'année. Dans la foulée, on s'implante en Italie et on pourra passer à l'échelle supérieure. Mutualisation des coûts d'exploitation et augmentation des bénéfices, tout ça sans renier sur la qualité des prestations. C'est ce qui m'importe le plus.
C'est très prometteur, Hélène. Et si Bruxelles ne donne pas le feu vert?
Le marché est en pleine expansion, faut foncer. T'as des doutes?
Non, aucun, tu le sais très bien. Ce qui me chiffonne un peu, c'est que tu mises tout sur une seule carte. Sans le feu vert de Bruxelles, on peut dire adieu à l'expansion. Et sans expansion, je perds de l'argent.
Hélène est-elle cynique, Dominique Moll?
Non, elle le devient à un moment donné. Au début, elle ne l'est pas. Enfin, c'est aussi une idéaliste qui pense que, voilà, comme elle dit, on peut faire de l'argent et avoir une conscience politique. Après, elle se rendra compte que c'est un peu plus compliqué que ça.
Elle est dans le win-win, hein. C'est un personnage de son époque.
Voilà, tout à fait. Après, il existe des personnes qui gèrent des camps de façon privée et qui sont très cyniques.
Voilà, cette série, c'est aussi l'occasion pour le public de découvrir que ça existe, la gestion privée des camps de migrants un peu partout en Europe.
Tout à fait.
Alors, je disais, il y a différentes histoires. La série se tourne sur plusieurs pays. On a la directrice de ce camp de migrants qui est jouée par Sylvie Testu. On a aussi 2 gardes de sécurité du camp qui se retrouvent impliqués dans une histoire aux allures de tragédie grecque. Et puis, un couple de Syriens qui vit à Paris, qui arrive à Paris avec leur fille. On suit aussi Amaré, un adolescent nigérian qui tente de gagner l'Angleterre en traversant toute l'Europe. Et puis aussi une famille allemande qui accueille chez elle un réfugié syrien. C'est des fils narratifs, Dominique Moll, qui se croisent, qui s'entremêlent. C'est dangereux de construire une narration sur 5 histoires différentes. Il y a des écueils à éviter.
Mais c'est comme dans toute fiction, dans toute narration, les écueils à éviter, c'est d'aller vers le cliché, vers le noir et blanc, vers à partir du moment où on essaye d'être sincère déjà, d'apporter de l'humanité, enfin de montrer la complexité de ces personnes, ça évite déjà pas mal d'écueils.
À l'intérieur du camp géré par Hélène, votre caméra s'attache à 2 personnages en particulier, 2 frères qui sont venus du Nigeria. Ils s'appellent Amaré et Daniel.
Daniel, il faut que je te parle de ta demande d'asile.
Ah oui? Vous avez des nouvelles?
Non. Les personnes qui examinent les demandes se sont mises en grève. Et toutes les décisions ont été reportées.
Jusqu'à quand?
On ne sait pas jusqu'à quand. Plusieurs mois, peut-être.
Mais je dois travailler. Je dois envoyer de l'argent au pays, moi.
Je suis navré, Daniel. La situation ici en Grèce est...
Je me moque de la situation ici en Grèce. Je pense à ma situation. Je voulais aller en Angleterre. J'ai perdu des mois.
C'est pas de ma faute.
Si, c'est de votre faute. Vous faites la gentille, mais vous vous moquez de nous.
Mais je veux vraiment vous aider.
J'en veux plus de votre aide.
Daniel!
Les scènes dans ce camp ont-elles été tournées dans un vrai camp de demandeurs d'asile?
Oui, elles ont été tournées au camp de Skaramagas, qui est au sud d'Athènes, qui est un camp où la situation n'est pas aussi dramatique que sur les îles Lesbos ou Chios, enfin, où la situation est vraiment très très dramatique, puisque maintenant on ne laisse plus les réfugiés en provenance de Turquie aller sur le continent depuis les accords avec la Turquie. On essaye de régler leur cas pendant qu'ils sont sur l'île pour possiblement les renvoyer en Turquie. Mais c'est là où on a tourné, c'était un vrai camp. Oui.
Alors les figurants dans la série sont-ils de vrais migrants?
Alors en partie dans le camp, pas forcément les résidents du camp, parce qu'après il y a aussi des problèmes légaux, parce qu'ils n'ont pas le droit de travailler. Enfin voilà, mais il y a plusieurs scènes, enfin notamment par exemple tout le groupe de réfugiés afghans et irakiens qui se retrouvent amarrés, enfin dans les mains des passeurs, sont enfin des vrais réfugiés qui vivent en Grèce.
Oui. Impossible de travailler en effet quand on est sans papier, c'est là que la propre histoire de ces migrants leur est interdite devant la caméra.
Absolument, oui.
Vous étiez aussi confronté à ça. Les élections européennes, Dominique Moll, sont prévues dans moins d'un mois, hein, le 26 mai. C'était important pour vous que cette série soit diffusée avant le scrutin ?
Oui, je pense que c'est bien. Enfin, ça, en tout cas, ça, on espère toujours que ça va sensibiliser un tout petit peu les gens à cette problématique.
D'ailleurs, vous êtes un réalisateur français, mais vous êtes né en Allemagne. Hein. Vous aviez le profil type pour réaliser cette série franco-allemande.
Oui, c'est vrai. Enfin, je suis franco-allemand. Enfin, j'ai toujours jusqu'à présent travaillé en France, mais c'est vrai que j'ai un peu le bon profil pour travailler pour Arte. Oui.
Vous avez été l'assistant de Marcel Ophüls pendant des années, Dominique Moll. Est-ce que c'est ce passage-là de votre carrière qu'a porté ce projet sur la série Eden?
Bah, je sais que le travail avec Marcel Ophüls, enfin, j'étais assistant sur deux de ses films, m'a beaucoup marqué. Enfin, d'une part, enfin, je me souviens qu'à l'époque, enfin, jeune, enfin, allemand, parce que je venais d'Allemagne, donc je me sentais plus allemand, avec encore une espèce de culpabilité comme ça qui traînait sur le nazisme et lui, enfin. Voilà, m'a fait comprendre très clairement aussi dans sa manière de travailler que voilà la faute collective, la responsabilité collective n'existe pas. L'histoire est faite de décisions d'individus et c'est ce qu'il fait dans ses documentaires, c'est qu'il voilà il va poursuivre des destins individuels et c'est ce que j'ai essayé de transposer aussi dans cette série de fiction.
Je vous posais la question parce qu'il y a une grande dose de réalisme dans cette série. On se demande parfois si on n'est pas proche du documentaire, si toutes les histoires que vous racontez ne sont pas des histoires vraies.
Bah, elles sont inventées, elles sont inventées, elles sont partiellement inventées, elles sont quand même basées sur des faits réels. Enfin, par exemple, un des personnages syriens, qui est joué par un acteur syrien qui vit en exil en France et qui lui-même a connu les prisons et les tortures sous le régime d'Assad. Et donc, dans les discussions avec lui, forcément, il y a des choses qui après sont filtrées dans le scénario et dans le personnage qu'il interprète.
Il y a une scène qui m'a glacé le sang dans votre série et qui pourtant est d'une banalité confondante. C'est la visite d'un appartement qui est en vente.
Ah, vous êtes la dame syrienne. J'ai appelé le propriétaire, il vous a prévenu.
Vous parlez français?
Oui.
Ah, je dois faire visiter l'appartement.
Venez. J'avais oublié, propriétaire, pas de l'appartement, à des réfugiés.
L'appart est bien vendu vide.
Ah oui, sans aucun souci. Venez voir la cuisine traversante. Tout équipée.
Un petit peu vieille, quand même. Mais...
Ouais. Ça demande à être modernisé. On va voir les chambres.
Pas mal. Et dans le quartier, les écoles, c'est comment? Ça va?
Oui, il y a de la mixité, mais à 15 minutes, vous avez du privé.
Il y a de la mixité, mais le privé n'est pas loin. Cette femme, cette Syrienne, elle ne sait pas où elle vivra dans quelques semaines quand l'appartement qu'on lui prête sera vendu. Et elle assiste complètement hébétée à cette visite. On est face à deux planètes très éloignées qui se percutent, là, Dominique Moll.
Oui, bah, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Pour la plage.
Pour la plage, là, c'est à nouveau le cas, effectivement. Cette scène de visite d'appartement qui est effectivement assez, assez surréelle, assez surréaliste. Ouais.
Ce couple syrien, donc la femme qu'on vient d'entendre et qui s'installe à Paris, me fait penser un petit peu à une série d'espionnage. Parce qu'au départ, on les trouve très attachants, ces deux personnages, et on finit, alors j'en dis pas trop évidemment, mais on finit par se méfier un petit peu de l'un d'eux. Ce qui est frappant finalement dans cette série, Dominique Moll, c'est que la tonalité est différente selon le fil narratif qu'on va suivre. On est dans la série d'espionnage pour ce couple de Syriens, on est dans l'épopée quasi homérique pour ce jeune Nigérian qui traverse l'Europe. Il y a des allures de tragédie grecque pour ces deux frères, ces deux beaux-frères qui sont gardiens de sécurité dans un camp.
On l'avait pas prévu de façon théorique, mais c'est quelque chose qui s'est dégagé petit à petit pendant qu'on travaillait sur les différentes histoires. Enfin, moi, je dirais que c'est, enfin, pour l'histoire du couple syrien à Paris, pour moi, c'est presque plus Hitchcockien que film d'espionnage.
Alors, on se demande si l'un n'a pas été retourné.
Oui, oui, bien sûr,
etc.
Mais c'est comme dans Soupçon de Hitchcock où la femme découvre, en fait, des choses sur son mari qu'elle ne savait pas.
Il y a du Bergman aussi.
Du Bergman aussi. Et donc, voilà, et petit à petit, ça va aussi la mener à s'émanciper et à trouver la force de s'assumer elle-même.
Alors, je le disais, il y a une famille allemande. On est aussi en Allemagne, cette famille qui était sur la plage et qui se retrouve ensuite à accueillir un demandeur d'asile syrien. Ils ont un fils qui prend très mal l'arrivée de cet étranger chez lui. Il est odieux, cet adolescent. Et quand il arrive à table ce jour-là, c'est avec un foulard sur la tête.
Allahu Akbar.
T'es cinglé.
Flo, enlève ça tout de suite, s'il te plaît.
Florian, c'est pas un jeu.
Ben non, c'est un hijab. Si tu veux, tu peux manger seul dans ta chambre. Hein.
Attendez, mais il faut se détendre. Nous voulons que notre hôte se sente chez lui, non? Un peu de tradition, ça fait pas de mal.
Seules les femmes le portent.
Mais c'est un truc de musulman.
Oui, mais je suis pas religieux.
Ah,
Flo, ça suffit, enlève-le. Et excuse-toi.
Pourquoi?
Ça suffit maintenant, Flo.
Ah bah bonjour l'humour dans cette famille.
Alors on peut regarder d'ailleurs en VF ou en VO hein, la série sur Arte, mais il faut souligner que la diversité des langues parlées dans Eden est assez impressionnante. Hein. Là évidemment normalement c'est en allemand.
Oui bien sûr, oui. Enfin là les extraits qu'on entend c'est la VF, la version doublée, alors que la version originale est dans enfin, 5 langues principales, le grec, l'arabe, français, anglais, allemand, plus du bulgare, du farsi.
Ça vous tenait à cœur, cette
oui, bien sûr. Enfin, ça faisait, enfin, c'était aussi un des intérêts de ce projet, parce que ça fait partie aussi de la situation, enfin, de cette multitude de langues, les gens qui se comprennent pas, et donc c'est vraiment important de regarder la série en version originale.
Voilà qui est dit. L'ambiance dans cette famille allemande, Dominique Moll, les relations entre l'ado Florian et le réfugié, il y a quelque chose à mi-chemin entre l'angoisse et l'ironie, parce que c'est un peu drôle aussi. On retrouve là quelques traces du film qui vous a valu le César du meilleur réalisateur il y a 20 ans, je le disais, hein. Harry, un ami qui vous veut du bien. Vous avez repensé à ce film en tournant les scènes dans cette famille allemande?
C'est vrai que c'est aussi l'histoire d'une intrusion, un élément étranger qui arrive dans une famille comme ça, qui fonctionne tant bien que mal et qui va déplacer les curseurs et les enjeux. Oui.
Il n'y a pas de jugement moral, vous le disiez tout à l'heure, sauf sur ce gamin-là quand même, ce jeune allemand-là.
Bah non.
Bon, non, à la fin, il se rattrape, mais j'en dis pas trop.
Bah oui, mais c'est aussi c'est aussi ça, enfin les trajectoires des personnages, je trouve ça plus intéressant de partir de quelqu'un qui a l'air odieux et qui finalement va lui-même évoluer et avoir un parcours qui l'amène vers plus d'intérêt vers ce jeune homme qui est syrien qu'il rejette au début, et c'est ce que je trouve intéressant.
C'est aussi tout l'intérêt de cette série chorale, de ces différentes histoires qui s'entremêlent, c'est que chaque histoire est très locale, très intime, mais qu'en se mêlant aux autres, elle va raconter la complexité d'une situation, la complexité de la crise migratoire, ce mot que vous n'aimez pas.
Oui, bah c'était un peu le défi qu'on s'était posé, c'est justement à travers plusieurs histoires individuelles refléter la complexité de la situation. Oui.
Il y a du suspense dans Eden, il y a de la tension, mais il y a aussi de l'espoir. C'est pas un gros mot, l'espoir, sur un sujet pareil?
Ben non, parce que s'il n'y a plus d'espoir, il reste plus grand-chose. Et je pense que les réfugiés, c'est quelque chose qui suscite beaucoup de peur, souvent irrationnelle, et comme disait Roosevelt, la seule chose dont il faut avoir peur, c'est la peur, et c'est vrai que la peur est quelque chose qui peut être très paralysant, et donc il faut la combattre, et il faut aller vers l'espoir. Oui.
Elle s'appelle Eden et c'est à voir demain soir sur Arte. Les 3 premiers épisodes, les 3 prochains, ce sera jeudi prochain. Mais je précise que le site d'Arte met en ligne directement les 6 épisodes, hein, si on veut les avaler tous d'un coup. Merci beaucoup, Dominique Moll.
Merci à vous.
Et j'ajoute que l'un des intérêts de cette série, c'est le casting. Hein. C'est un comédien syrien qui joue le personnage syrien, des Allemands qui jouent les Allemands, etc. Et ça, c'est d'une grande richesse, là encore, pour la diversité des langues. Merci beaucoup, Dominique Moll. Et voici Ali Rebaï. Bonjour Ali.
Maman, je m'ennuie.
Je sais pas quoi faire.
Qu'est-ce qu'on fait? Je m'ennuie. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous?
Eh ben, on répond à l'enfant. Tu as de la chance de t'ennuyer. C'est là que va naître la créativité, la poésie. C'est ça, hein?
On parle d'ennui ce matin. Faut-il laisser ses enfants s'ennuyer? Vous, quand vous étiez petite, vous aimiez vous ennuyer?
Non, faut reconnaître que c'est quelque chose qu'on réalise un peu plus tard, en effet. Ouais. Hein. Alors, le témoignage des auditeurs?
Le témoignage des auditeurs au 01 45 24 7000 ainsi que sur l'appli France Inter.
Voilà un
sujet. Qu'est-ce que vous faites, vous, quand vous vous ennuyez? Est-ce que vous dégainez votre portable?
Non, je regarde les nuages, évidemment.
Ah, c'est beau. Dorothée Barba qui regarde les nuages.
On attend les témoignages des auditeurs. C'est un sujet parfait pour un jour férié, en tout cas.
Oui, c'est vrai que le 1er mai, on s'ennuie.
Est-ce qu'il y a de la pub avant les infos? J'ai un doute. Oui, il y a de la pub, c'est parti.